France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau relax qui va nous faire découvrir aujourd'hui la gigue. Danse vive et gaie d'origine populaire, passée dans le monde savant. On va en retracer l'histoire depuis les origines irlandaises jusqu'à Stravinsky. 16 heures en disque de légende, le concerto pour violon de Beethoven par Yehudi Menuhin et Wilhelm Furtwängler à Lucerne en 1947. Et pour terminer, nous rendrons hommage au compositeur Peter Rudewoesch. Mais tout de suite, dansons la gigue. La gigue de la quatrième suite anglaise de Jean-Sébastien Bach, jouée au piano par Andras Schiff, de la gigue écrite et savante sous la plume de Jean-Sébastien Bach, oui, parce que comme toutes les danses traditionnelles, la gigue est née dans la rue ou peut-être dans une ferme, avant de grandir dans une cour et de s'épanouir dans les salles de concert. Origine populaire donc, en l'espèce britannique, la gigue, avec un J, désigne au XVe siècle une danse rapide où l'on saute vigoureusement. Le terme aurait alors une nette connotation sexuelle, comme le jazz beaucoup plus tard. Jigger et jazzer, c'est se rapprocher pour se préparer du bon temps. Les terroirs originels, c'est l'Angleterre et l'Écosse, mais c'est en Irlande que la jig traditionnelle va prendre son envol au XVIIe siècle. En voici trois sous forme de suite. Thank you. jig irlandaise, ici interprétée par les membres de l'ensemble The Curious Birds, avec le violon endiablé de rigueur qui était ici celui d'Alix Boisvert. La branche populaire irlandaise de la jig, c'est celle que l'on vient d'entendre, mais il y avait aussi en même temps et parallèlement une branche noble ou d'intérieur. Dès le début du XVIIe siècle, les virginalistes anglais portent ainsi la jig au clavecin, enfin à leur instrument à eux qui est plutôt le virginal, sorte de rampe de lancement pour sa reprise dans des cadres beaucoup plus officiels. Ici, trois jig, alors là encore on a changé d'orthographe, un G au début et deux G à la fin. Elles sont signées William Byrd, John Bull et quelques décennies après, un arrangement chez Henry Purcell dans le King Arthur. Jig signé John Bull, William Byrd et Henry Purcell, si vous voulez toutes les références avec les interprètes et tout, c'est bien sûr sur le site de France Musique. Alors on l'a entendu tout à l'heure avec la jig irlandaise dans les fêtes populaires d'alors, les petits ensembles sont dominés par le violon. La jig se trouve ainsi profondément liée au fiddle, qui est un terme anglais désignant le violon avec la connotation populaire et une technique spécifique pour faire danser. C'est la tradition que reprend des siècles après Igor Stravinsky dans son duo concertant. Enfin, quand je dis tradition, c'est beaucoup dire, parce que celle-ci s'est complètement perdue dans l'intervalle. C'est donc du fiddle largement réinventé. Thank you. Hélène Pritchin au violon et Lucas Guignouchas au piano dans la gigue du duo concertant d'Igor Stravinsky.
France Musique, relax. Lionel Esparza.
Il semble que la gigue soit arrivée en France début XVIIe siècle par un luthiste venu de Londres, Jacques Gauthier. Elle trouve peu à peu l'orthographe qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle se développe comme une musique aristocratique. Elle acquiert peu à peu des formes plus libres qui la séparent de la danse. Voici une belle évolution en trois exemples sur un petit siècle. Ennemond Gauthier, ça c'est du luth et du précurseur. Jean-Henri d'Anglebert, beaucoup plus noble, au clavecin. On dira que c'est le stade aristocratique de la gigue à la française. Enfin, Marin Marais dans une version plus lente, et là ce sera plutôt le stade artiste.
Thank you.
Gigues bien différentes, faut dire que plusieurs décennies les séparent. Edmond Gauthier, Jean-Henri d'Anglebert et enfin Marin Marais pour cette gigue dite la favorite. Au fil du XVIIe siècle, la gigue contamine l'opéra. La scène française est alors très liée au ballet. Avec Lully, on y intègre toutes sortes de sarabandes et de gavottes. Puis avec Rameau, bien sûr, qui sera un grand fournisseur de gigues, parfois en faisant oublier la destination supposée danser. Une gigue réinterprétée, si on veut, dans ses caractères et dans ses formes, avec un potentiel presque mélancolique. Voici au clavecin une gigue en rondeau de Jean-Philippe Rameau.
Thank you.
Jean-Philippe Rameau, Gigue en rondeau, extrait de sa suite en mi, joué au clavecin par Bertrand Cuiller. Toujours dans la sphère française, un exemple beaucoup plus tardif et qui a vraiment absolument rien à voir, Gigue de Claude Debussy, c'est aussi la première pièce de ces images. On est dans les années 1910, Debussy n'est pas très vieux mais déjà malade. Le premier titre de ce qu'on va entendre là était d'ailleurs Gigue triste. Le compositeur se serait servi de ses souvenirs musicaux d'Angleterre, entre autres un air populaire écossais entendu des années auparavant. Ça donne des gigues si peu gaies, si peu enlevées, si peu gigue en somme. Des gigues qui passent, qui viennent et qui s'en vont comme des personnages dans le brouillard. C'était la première des trois images pour orchestre de Claude Debussy, Gigues, par Manuel Rosenthal et l'orchestre de l'Opéra de Paris.
France Musique, relax, Lionel Esparza.
On va revenir au XVIIe siècle, mais côté italien, avec la giga qui se développe au milieu de ce siècle et que Corelli va magnifier, comme il l'a fait de toute chose musicale, en lui conservant une tonalité un peu rustique, jusque dans ses sonates d'église. Mariner avec l'Academy of St. Martin's of Fields dans la gigue du Concerto Grosso opus 6 numéro 12. En Allemagne, le premier à faire giguer le clavecin aurait été Wolfgang Ebner en 1648, ça nous dit précisément à quand ça remonte. Par la suite, Froberger et Buxtehude, qui étaient des compositeurs un peu austères, se sont approchés avec circonspection de cette danse au sous-entendu sulfureux, pour ne pas dire salace. En revanche, la génération suivante s'en est donnée à cœur joie et a choisi selon le contexte, selon pour qui on écrit aussi, soit la gigue à la française, plutôt pointée et pleine de surprises, soit la gigue à l'italienne, plutôt égale et fluide. Ici successivement deux maîtres, Bach et Händel.
Thank you.
La gigue de la première partita de Jean-Sébastien Bach, jouée par Benjamin Allard au clavecin, et toujours au clavecin, celle de gigue de la suite en la majeure de Handel par Francesco Corti. On va rester avec Handel et assister à une nouvelle contamination de la scène lyrique par la gigue. La danse n'a plus rien à voir fonctionnellement avec ce qu'elle était à l'origine. Hein. Elle est là pour dynamiser, pour apporter une prime sautière couleur locale, peut-être pour faire un souvenir de l'ouverture à la française. On est en 1711 dans Rinaldo de Handel, donc la seconde partie de l'ouverture est une gigue. Thank you. avec sa clausule sur un rythme de gigue. C'était l'ouverture de Rinaldo de Händel, dirigée par Christopher Hogwood. La gigue disparaît dans la deuxième moitié du 18e, mais elle va rester façon souvenir, comme l'un des genres du passé qu'on va pouvoir ressusciter de temps à autre. On va aller ici dans le domaine germanique, vers trois gigues qui s'étendent sur presque un siècle et demi d'histoire. Mozart d'abord, avec un thème très dégingandé, Robert Schumann avec une petite pièce un peu urgente, et puis Arnold de Schoenberg, qui réinvente le disloqué de certaines gigues du 17e.
Thank you.
Trois gigues signées Mozart, Schumann et Arnold Schoenberg. On entendait par trois artistes différents que je vous laisse découvrir sur le site de France Musique pour avoir toute la programmation musicale de cette heure de gigues dans son détail. Il est 16h.
France Musique, disque de légende. Lionel Esparza.
1947, après un long passage devant la commission de dénazification et ce qu'on appelle alors son blanchiment, Wilhelm Furtwängler recommence à exercer son métier. C'est compliqué parce que certains l'accusent d'avoir secondé le meurtrier régime nazi, d'autres lui reconnaissent une action de résistance intérieure qui l'a conduit même à sauver des vies. La réhabilitation viendra de Yehudi Menuhin, qui a alors à peine plus de 30 ans, mais une aura internationale considérable et irréprochable. En cette année 1947, le violoniste accepte donc de jouer avec Furtwängler à Berlin le très symbolique concerto de Beethoven. Une photographie prise à la fin du concert, où le chef et le violoniste se tiennent chaleureusement la main, fait alors le tour du monde. Dans la foulée, ils enregistrent ce concerto à Lucerne comme un symbole ambivalent de dialogue et de concorde retrouvée. On pensera ce qu'on veut de ce que le violoniste a alors offert au chef, mais c'est de l'historique. En août 1947, à Lucerne, avec l'orchestre du festival, Yehudi Menuhin au violon, Wilhelm Furtwängler à la baguette dans le premier mouvement du concerto de Beethoven.
Thank you.
Le premier mouvement du concerto pour violon de Ludwig van Beethoven, c'était en août 1947 avec l'orchestre du Festival de Lucerne, Yehudi Menuhin et Wilhelm Furtwängler qui se rencontraient au disque, en tout cas pour la première fois ici. Le début d'une belle amitié, si l'on peut dire. Un disque de légende à réécouter sur le site de France Musique et sur l'application Radio France.
France Musique, relax, Lionel Esparza.
La mort du pianiste Maurizio Pollini m'a empêché hier de revenir sur un autre décès important, celui du compositeur Peter Udvösch. Bref, extrait de Zero Points, une pièce de Peter Udvösch, dirigée là par lui-même. Peter Udvösch, qui décédait dimanche à l'âge de 80 ans, c'était un personnage assez central pour la création. D'abord, comme chef d'orchestre, il a dirigé des centaines de pièces, entre autres en tant que directeur musical de l'ensemble intercontemporain. On s'en souvient, c'était pendant toutes les années 80. Et puis surtout comme compositeur, il a été l'un de ceux qui ont réhabilité l'opéra en une dizaine d'œuvres très importantes, à commencer par Trois Sœurs, créée à Lyon en 1998. Peter Udvösch sera au centre du prochain carrefour de la création sur France Musique, qui lui sera en grande partie consacré. Ce sera dimanche à 20h. Extrait de Senza Sangue de Peter Udvösch, chanté par Victoria Visin, dirigé par le compositeur lui-même, auquel le Carrefour de la Création sur France Musique rendra hommage ce dimanche à 20h. Merci à Martine Moni et Emmanuel Morse-Duncan. Je vous laisse avec Anne-Charlotte Raymond.
À réécouter sur francemusique.fr.